Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Belinda Bousouma.
À la une, grogne des agents et cadres de la fonction publique à Kinshasa. Ils étaient en sit-in mercredi devant la primature. Ils réclament entre autres la mécanisation des agents, nouvelle unité, le déblocage des salaires des agents de carrière et le paiement de 50 000 francs congolais promis dans l'accord de Bibois en 2024. Suspension des services des urgences de l'hôpital HJ Limité et du centre médical Diamant. Décision du ministre de la Santé publique. Il leur est reproché d'avoir refusé de prendre en charge une malade au motif qu'elle ne réunissait pas la caution exigée et la patiente est décédée par la suite. Et puis, plusieurs agents de la régie des voies aériennes RVA interpellés hier à Kinshasa, reprochés d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international de Ndjili. Le président du conseil d'administration de la RVA évoque une coupure d'électricité. Trifon Kinkei Mulumba est l'invité de ce journal. À tous et à toutes, bonjour. À Kinshasa, la grogne monte chez les agents et cadres de la fonction publique. Le mercredi, les membres du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle, SIRAP, ont organisé un sit-in devant la primature. Ils réclament, entre autres, la mécanisation des agents d'INU ou nouvelle unité, la mise à la retraite des cadres ayant plus de 35 ans de carrière ou 65 ans d'âge, le déblocage des salaires des agents de carrière ainsi que le paiement des 50 000 francs congolais promis dans l'accord de Bibois en 2024. Détails dans ce reportage de Sarah Sumbela.
Banderoles en main, sifflets, cris et grognes. Les agents et cadres de l'administration de syndicalistes de la fonction publique laissent éclater leur colère devant la primature. Ces sit-ins visent à interpeller la première ministre sur leurs revendications. Parmi les manifestants, les agents du service de comptine scolaire réclament leur mécanisation ainsi que le paiement des 18 mois d'arriérés de salaire et primes.
Nous sommes des responsables. Voilà la rentrée scolaire. Pas même 100 francs.
Hein?
Et depuis que nous sommes là, il n'y a même pas.
Du côté de l'Office de voie des dessertes agricoles, OVDA, les revendications portent sur l'application de la grille barémique des salaires pour les agents actifs et retraités, conformément à l'arrêté de juillet 2022 du gouvernement Samalou Kondé. Ils demandent également la régularisation des situations administratives et pécuniaires des doublons rejetés à Kinshasa et en province. C'est ce qu'explique ce syndicaliste.
Nous voulons à ce que les 50 000 francs congolais, nous tendons à la quatrième trimestre, bien fait.
Une délégation de syndicalistes a été reçue par la première ministre pour discuter des solutions susceptibles de faire avancer la situation et calmer la colère des agents et cadres de la fonction publique.
Du côté du Congo central, c'est la grogne des agents et cadres de la SNEL, Société Nationale d'Électricité. Ils s'opposent au projet de démembrement de cette entreprise de l'État en quatre directions générales. Réunis en assemblée générale extraordinaire, ces agents dénoncent un projet qu'ils qualifient de machiavélique, craignant qu'il ne conduise à un assainissement du personnel. Dans un mémorandum adressé au chef de l'État, à la première ministre et au directeur général de la SNEL, ces agents réaffirment leur position. La SNEL doit rester une et indivisible. Espérant Fundantela, président délégué syndical de la SNEL Congo Central, explique la situation au micro de Nana Plurich Mambou.
Nous sommes réunis ici pour exprimer notre mécontentement et dire non au projet de notre PCA, M. Luc Badibanga, projet selon quoi il aurait fallu démembrer la SNEL en quatre parties pour en faire quatre différentes entreprises. Et dans son rapport, il faisait état des assainissements et nous regrettons aussi de lire dans ce rapport qu'il aurait demandé l'embauche d'une main-d'œuvre qualifiée, comme quoi nous qui étions à la SNEL n'étions pas qualifiés. Nous sommes désolés et nous disons non premièrement à ce démembrement qui est un projet machiavélique selon nous, parce que nous, agents pour le bien de l'entreprise, du pays, de la province du Congo central, voulons une SNEL une et indivisible. Pourquoi nous disons cela? On nous a légué une SNEL une, c'est-à-dire que la SNEL a cette maladie. Lui, en tant que médecin, devait venir pour guérir la maladie et non pour amputer ou découper ou démembrer ces corps malades.
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Nous avons tenté en vain de joindre le président du conseil d'administration de la Société nationale de l'électricité, SNEL. Les services des urgences suspendus dans deux grandes structures médicales de Kinshasa, les hôpitaux HJ de Limété et le centre médical Diamant dans la même commune, l'ordre est venu du ministre de la Santé selon le secrétaire général. Il leur est reproché d'avoir refusé de prendre en charge une malade en la personne de Madame Divine Kumasamba qui s'est présentée au service des urgences la nuit de dimanche à lundi dernier au motif qu'elle ne réunissait pas la caution exigée, cela malgré la compte qu'elle détenait. Une situation qui, selon la lettre du secrétaire général, a entraîné le décès de la patiente. La suspension, c'est en attendant les enquêtes menées par l'inspection générale de la santé, explique Dr Sylvain Yuma, qui estime que la décision n'est pas extrême puisqu'il y a eu mort d'homme. Il est joint par Babel Mpongo Massimango.
Il fallait qu'on prenne cette décision parce que il y a eu dans la nuit du 7 au 8 une dame qui s'est présentée dans une situation d'urgence, d'abord HJ, pour n'avoir pas payé la caution. Elle n'a pas été prise en charge. Alors dès là, elle est partie à Diamant, Limité toujours. Elle a vécu la même situation et elle décédera plus tard. Et ça, c'est des situations inacceptables. Et nous étions obligés, sur l'instruction du ministre, de prendre cette décision et envoyer les inspecteurs sur le terrain pour nous dire exactement ce qui s'est passé avant de prendre d'autres décisions à l'avenir. Il n'y a pas de décision extrême. Aussi longtemps qu'il y a eu mort d'homme, il n'y avait pas autre chose à faire que de poser cet acte-là. On va voir ce qu'on prendra comme décision après. Mais dans un premier temps, à titre de mesure conservatoire, il fallait procéder par la suspension du fonctionnement des deux services d'urgence.
L'hôpital HJ, dont les services d'urgence viennent d'être suspendus par les autorités sanitaires après le décès d'une jeune patiente, réagit à cette décision. Selon la direction de l'établissement, la patiente avait été prise en charge, mais son accompagnateur aurait décidé, contre l'avis du médecin, de l'amener vers un autre centre médical. Docteur Bangambe, directeur de l'hôpital HJ, s'exprime à ce sujet au micro de Babel Mpongo Massimango.
Nous étions devant une malade qu'on nous a menée dans un état très critique. Aux urgences, la malade a bénéficié des soins nécessaires. Après, cette malade a été orientée vers les soins intensifs. Et comme dans tous les hôpitaux, si vous voulez aller à la salle d'opération, hospitalisation, aux soins intensifs, voilà ce que vous devez payer. On donne une caution. Alors, il revient à la famille de voir est-ce que ce qu'on nous a demandé, nous allons payer. Est-ce que nous pouvons payer la totalité? Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce qu'on peut faire un document pour payer après? Il n'y a pas eu collaboration dans ce sens-là avec la personne qui avait accompagné la malade. Les soins ont été donnés. Quand on leur a communiqué ce qu'ils devaient payer, ils n'ont même pas dit qu'il fallait peut-être signer pour venir payer le jour qui suivait. Ils ont préféré aller dans une autre structure. Notre médecin aux urgences a estimé nécessaire qu'il continue la prise en charge chez nous. Mais la personne a refusé et a même proposé de louer notre ambulance parce qu'il devait partir. Elle est partie contre avis médical.
Rendons-nous au Nord Kivu. Des pillages, tracasseries, viols et tant d'abus contre la population sont signalés dans plusieurs localités dans la région de Oufamandou Ier, une zone enclavée du territoire de Masisi. Plusieurs sources locales affirment que la situation est préoccupante dans cette zone où il y a absence totale de l'autorité de l'État. Seuls les groupes armés Wazalendo y règnent en maître et imposent la loi depuis une longue période. Certains leaders locaux alertent les autorités nationales et leur demandent de mettre fin à cette crise qui provoque des conséquences multiformes. Plus de détails avec vous, Stanislas Diumi.
D'après nos sources, dans le secteur de Katoï, le dimanche 31 août dernier, au moins 11 femmes et une adolescente de 13 ans étaient violées dans la localité de Remeka par un groupe de Wazalendo. En plus de cette agression, certaines femmes parmi les victimes ont été humiliées en plein marché par ces hommes armés. Ces femmes ont été déshabillées et forcées à marcher nues en public. Dans un rapport de monitoring de cas partagé entre les leaders locaux, ces derniers ajoutent que ces deux autres cas de viol sur mineurs ont été enregistrés le 2 septembre, alors que les victimes âgées de 12 et 14 ans revenaient de champ vers 17 heures avec leur mère, précise ce rapport. Les mêmes activistes locaux renseignent que la plupart des cas de viol s'observent dans la localité Kamouobé, à Roissy, dans le groupement Oufamandou Premier, où sont basés les commandants de ces Wazalendo. Ce rapport parle des éléments du groupe général autoproclamé Noah Machano, actif dans la zone qui serait à la base de ces incidents. En outre, un homme de 38 ans a été tué par ces hommes armés le 1er septembre dans la localité des Kachoukano, chefferie des Baoundé, dans la même région.
Autre nouvelle, l'Union européenne veut jouer un rôle dans le développement du corridor de l'Obito, un projet stratégique qui vise à relier par voie ferroviaire la côte atlantique aux régions minières de la RDC et la Zambie. Une délégation composée de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL et de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement est en mission conjointe en RDC et en Zambie. Objectif, explorer les opportunités offertes par ce corridor ferroviaire qui reliera la ville portuaire de l'Obito en Angola aux zones riches en minerais de la région. Un projet d'infrastructure à grande échelle qui pourrait transformer le commerce et le développement dans la sous-région. Une conférence de presse a été animée à ce sujet mercredi à Lubumbashi par ces deux agences. Le compte-rendu de Paulin Munanga.
Cette délégation va examiner comment l'Union européenne peut jouer un rôle dans le développement du corridor de l'Obito dans le cadre de la stratégie globale Gateway. Cette stratégie vise à mobiliser des investissements massifs pour construire des liens propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports. La délégation engage des discussions avec les autorités et la société civile qui tournent particulièrement autour de la réhabilitation de la voie ferrée dit le Lokolwezi qui pourrait contribuer à un transport et un commerce plus équitable tout en bénéficiant aux communautés locales. Jean Van Wetter, directeur général d'ENABEL.
On ne voudrait pas que ce projet ne serve qu'à transporter des marchandises minières pour ensuite être exportées. Il faut créer de la valeur ajoutée dans le pays et donc il faut qu'il y ait de l'industrie locale. Il faut qu'il y ait de la main-d'œuvre locale, donc il faut avoir un upskilling de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du projet. Il faut que des PME détenues localement puissent accéder aux différents marchés qui seront créés.
Pour rappel, le corridor de l'Obito est un projet d'infrastructure à grande échelle visant à créer une liaison ferroviaire entre la ville portuaire de l'Obito sur la côte atlantique de l'Angola et les régions riches en minerais de la RDC et de la Zambie. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la province du Maniema fait face à une flambée de prix du carburant. Depuis dimanche dernier, le litre qui s'est vendu à 6 000 francs congolais coûte aujourd'hui entre 10 000 et 13 000 francs congolais. Cette situation perturbe la circulation et provoque une hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché. Le ministre provincial de l'économie, Kasongo Amuya George, évoque une rupture des stocks mais met en garde contre toute spéculation sur le prix du carburant. Le ministre provincial de l'économie du Maniema s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
C'est une conjoncture, vous savez, notre voie d'approvisionnement pose encore un problème. Heureusement que son excellence, monsieur le gouverneur, a compris qu'il fallait réhabiliter la route Ubundu-Kisangani. Et cette conjoncture est liée à la rupture du stock. Finalement, il y a rupture des stocks, c'est en un seul mot, mais nous espérons que ce sont des spéculateurs. Selon les mécanismes d'assainissement et de fixation des prix des produits pétroliers au Maniema, les COSMAP, les prix d'un litre de super léger, ce qu'on appelle l'essence, est fixé à 6 000 francs congolais, y compris la taxe conventionnelle. Nonobstant les mauvaises langues qui cherchent des échappatoires, comme qui dirait, oh, c'est la taxe conventionnelle qui serait à la base de cette situation. Rien s'en faut. Jusque-là, les prix d'un litre de super léger comme des gasoil est fixé de manière officielle à 6 000 francs congolais. Tout le reste n'est que spéculataire qui s'expose à la rigueur de la loi.
Nous proposons à présent la suite et fin de notre série de reportages sur le chemin de la croix pour obtenir un passeport, payer en ligne, prendre rendez-vous, attendre des mois. La nouvelle procédure pour obtenir le passeport en RDC devait être plus simple. Elle est en réalité un véritable calvaire pour de nombreux demandeurs. Reportage de Michel Kifindangoy.
La procédure est claire sur les papiers. Mais dans la réalité, c'est un parcours semé des embûches. Pour obtenir le passeport, il faut d'abord payer en ligne, un processus parfois complexe. Ensuite, prendre un rendez-vous pour l'enrôlement. Et c'est là que le calvaire commence. Témoignage de Jean-Luc.
Ah, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué avec vos trucs ici. J'ai essayé de prendre rendez-vous, mais les sites ne marchent jamais. J'ai dû y aller plusieurs fois pour y arriver. Et une fois sur place, la file est interminable. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant.
Mais une fois la capture faite, l'attente se prolonge. Pour récapituler les difficultés, 126 000 dossiers bloqués, une chute de production de 5 000 à 500 passeports par jour et une nouvelle procédure numérique compliquée. Ces dysfonctionnements ont un impact direct sur la vie des Congolais. Témoignage.
Je ne sais pas si je verrai un jour mon passeport. J'ai fait tout. C'est une grande déception. On sait ça, abandonné par son propre pays. Parce que normalement, les choses ne pourraient pas marcher comme ça.
Seul l'assouplissement de la procédure en ligne des demandes de passeports et le renforcement de la capacité de production pourraient améliorer la situation.
Actualité internationale.
Positionner l'Afrique comme une puissance industrielle verte, c'est l'ambition du sommet africain sur le climat qui s'est clôturé le mercredi 10 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Durant deux jours, plus de 40 chefs d'État et de gouvernement étaient réunis pour clarifier les priorités du continent en termes de préservation de l'environnement avant les grands rendez-vous internationaux à venir. Ils espèrent ainsi pouvoir peser davantage dans les négociations lors de la COP30 prévue en novembre à Belém dans le nord du Brésil.
L'invité.
Plusieurs agents de la régie des voies aériennes RVA ont été interpellés hier à Kinshasa. Il leur est reproché d'avoir retardé l'atterrissage de l'avion du chef de l'État à l'aéroport international de Njili. À Radio Kapi, le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinke Mulumba, reconnaît cet incident qu'il attribue à une coupure d'électricité qui a perturbé le fonctionnement de la tour de contrôle. Il en parle avec Blaise Ndongala Maenda.
Bonjour monsieur Kinke Mulumba.
Bonjour cher monsieur.
Quelle est la situation qui prévaut actuellement à l'aéroport international de Njili?
Il n'y a pas de problème que je sache. Je sais que à 2h30, il y a eu coupure d'électricité et c'est la SNEL. Cela arrive fréquemment. La RVASA est équipée de groupes électrogènes. Ben, il faut savoir les activer et attendre tout ça pour le balisage et la tour de contrôle. Quand il s'agit, comme on le sait, de l'avion présidentiel qui doit atterrir, il faut plus de mesures de sécurité. Et la RVA doit s'y mettre. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bien, le conseil d'administration a mis en place une commission d'enquête. Nous attendons le résultat. Est-ce qu'il y a eu manque de communication avec la tour de contrôle? Mais il est vrai que faire retarder l'atterrissage d'un tel vol, même d'une dizaine de minutes, d'après ce que je sais, pose un problème. Cela montre qu'il s'agit d'un incident majeur.
Confirmez-vous qu'il y a eu exactement arrestation parmi les agents cadres de la RVA?
Ben, j'ai eu au téléphone le commandant de l'aéroport, Monsieur Vicky Lundula. J'ai eu également au téléphone le directeur général. Ils m'ont dit qu'il y a eu, en effet, une ou deux personnes, trois, qui ont été arrêtées. Mais je ne connais pas la suite. Est-ce que ces personnes ont été libérées? Je n'en sais rien.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tels incidents dans les jours à venir?
Ben, écoutez, c'est d'abord la modernisation des aéroports. Et ça, c'est absolument important. On a des aéroports qui datent d'il y a 50 ans et il faut changer absolument. Si vous regardez Njili, l'aéroport de Njili, c'est un vieil aéroport. L'électricité de la SNEL est souvent partie et il y a une urgence absolue. Voilà.
Cet incident relance aussi les débats sur les recettes des GOPAS. Est-ce avec les recettes que vous mobilisez, vous ne pourrez pas faire face à certains besoins?
C'est la question qu'il faut poser aux gestionnaires au quotidien. Je suis le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a une mission précise, c'est prendre les décisions, suivre l'exécution de ces décisions par la direction générale, faire le contrôle de l'entreprise. Et ceci n'est pas toujours facile, vous le savez très bien, entre celui qui contrôle et celui qui gère au quotidien, malheureusement. Mais la situation à la RVA n'est pas si spéciale d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à régler cette question-là.
Cette situation a créé une certaine peur parmi les passagers. Quel message lancerez-vous aux passagers qui voudraient bien voyager via l'aéroport international d'Ndjili?
Bon, écoutez, il n'y a aucune crainte à avoir. Moi, je peux vous assurer qu'il y a un mois, j'ai vécu la même situation à l'aéroport des Zaventem à Bruxelles. L'avion SN Bruxelles a dû refaire le gaz simplement parce que l'espace, le tarmac où devrait se poser notre avion était occupé par un autre avion. On a dû passer 40 minutes au-dessus de la Belgique avant d'atterrir. Donc, des incidents comme ça sont fréquents, mais il faut, quand il s'agit d'un avion de haute sécurité, comme celui du président de la République, monter en puissance en termes de mesures de sécurité. Je ne peux pas accepter que, par exemple, le groupe électrogène n'ait pas été activé à temps et donc que le système de balisage n'ait pas fonctionné. Mais il n'y a aucune crainte à voir. Je pense que l'aéroport international d'Ndjili, en attendant que le processus de modernisation puisse être enclenché, il y a des avions qui se posent et qui décollent sans problème.
Monsieur Kinke Moulumba, nous vous disons merci.
Je vous en prie.
Le président du conseil d'administration de la RVA répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.